Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale et ce matin la matinale fait un petit détour par le conseil régional de Bretagne où nous accueille Loïc Chesnay-Girard, président du conseil régional de Bretagne. Merci de recevoir Bretagne 5.
Plaisir, bonjour et bienvenue au conseil régional de Bretagne.
Alors, on va parler de beaucoup de choses ce matin. On va parler d'agriculture, on va parler de pêche, on va parler d'Europe, on va même parler de politique. Voilà, pour le sommaire de cet entretien. Loïc Chesnay-Girard, on a vu ces temps derniers de graves problèmes concernant la pêche en Bretagne. J'avais envie de vous entendre sur le dossier, car évidemment, la Bretagne, c'est une patrie de pêche. Les pêcheurs sont inquiets. Ils sont inquiets aussi des mesures européennes.
Effectivement, nous avons 1200 bateaux de pêche en Bretagne, des milliers d'hommes et de femmes qui travaillent sur ces bateaux, avec derrière une économie qui fait vivre nos territoires sur terre. Et nous avons besoin de cette pêche parce que c'est un métier noble, important, et parce que surtout, ça participe à notre souveraineté alimentaire. Et la Bretagne a besoin de ses pêcheurs, je veux le redire ici fermement, fortement, et nous avons donc plusieurs actions à mener au niveau local, depuis nos criers jusqu'à nos bateaux. Et puis au niveau national et européen, parce que si on ne parle pas de notre pêche, eh ben, on ne parle pas de la pêche bretonne et donc on est dans une forme d'oubli de ce qu'est notre activité économique importante qu'est la pêche en Bretagne.
Alors la pêche en Bretagne, c'est aussi des petites pêcheries, des petits artisans, on pourrait le dire comme ça. Et on voit arriver, là aussi c'est à l'échelle européenne, de gros bateaux. On en a vu arriver du côté de Saint-Malo, ça a d'ailleurs fait quelques vagues dans le milieu des pêcheries. Est-ce que là aussi il faudra que la région pêche de tout son poids pour obtenir une réglementation européenne qui soit peut-être un peu plus en faveur des petits pêcheurs?
Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que sur les 1200 bateaux de pêche, plus de 1000 font moins de 12 mètres. Nous sommes une pêche essentiellement artisanale. Et nous avons besoin que nos artisans, nos marins-pêcheurs, celles et ceux qui s'embarquent dans des investissements considérables pour acheter des bateaux, soient assurés du soutien des Bretonnes et des Bretons et du soutien du président de région que je suis. Ensuite, effectivement, vous avez raison, la pêche mondiale, c'est une pêche industrielle, avec des bateaux-usines considérables, que nous ne voyons d'ailleurs pas dans nos ports. Ils ne rentrent même pas dans les ports de Bretagne, y compris à Saint-Malo, où à part les deux bateaux qui font du surimi et qui sont de taille relativement modeste par rapport à la flotte mondiale, ils n'existent pas chez nous. Et nous avons conscience, je crois, que si nous ne gardons pas notre pêche, nous ne saurons plus pêcher. Et là, ce serait un drame pour notre pays, un drame pour celles et ceux qui aiment la pêche, mais aussi celles et ceux qui aiment consommer les produits de la mer. Parce que l'essentiel des produits de la mer que l'on consomme, malheureusement, viennent de l'importation et viennent de pêches qui ne sont pas contrôlées comme les nôtres, contrôlées comme les pêches bretonnes, avec tous les efforts que les marins pêcheurs ont fait depuis des dizaines d'années.
Alors des efforts sur l'environnement aussi, sur la ressource, on en a beaucoup parlé parce que pas de ressources, pas de pêche évidemment. On sait que les marins bretons se sont vraiment impliqués. Là aussi, il y a eu un soutien de la région.
Il y a eu un soutien de la région, mais c'est d'abord aux marins pêcheurs que l'on doit ces efforts. Ils ont entendu les remarques des scientifiques, ils ont compris les règles que l'Europe a posées, et ces règles, elles visent tout simplement à préserver la ressource. Pas à embêter les pêcheurs, à préserver la ressource. On travaille avec le vivant, la pêche est une forme de chasse en mer, de poissons sauvages, et il faut faire en sorte que l'on pêche la bonne quantité pour préserver les générations futures de poissons. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer à nourrir la génération future des humains. Et je pense que les pêcheurs bretons l'ont particulièrement compris. Pêcheurs et agriculteurs sont unis dans ce mariage avec la biodiversité, avec le vivant. Et nous avons besoin donc de travailler encore et encore sur des modèles économiques qui intègrent cela pleinement et complètement.
Alors vous avez parlé d'agriculture, Loïc Chesnay-Girard. Là aussi, on a une crise ouverte de l'agriculture aujourd'hui, crise à l'échelle européenne. Les agriculteurs ont peur de ne pas survivre, tout simplement ne pas survivre. Ils font du bruit dans nos campagnes, dans nos rues, parfois retournent les panneaux. Ils ont besoin d'être entendus et ils ont surtout besoin de pouvoir s'en sortir. Là aussi, la région Bretagne, on le sait, très impliquée dans la chose agricole et dans le soutien aux agriculteurs. Est-ce qu'il faut faire plus aujourd'hui?
Il faut surtout se dire collectivement que si nous n'avons pas d'agriculteurs, nous serons dans une situation dramatique pour notre subsistance. Et une démocratie qui ne nourrit pas sa population n'est plus une démocratie. C'est important pour la France, c'est important pour l'Union européenne. 450 millions d'Européens qu'il faut nourrir tous les jours avec des produits animaux, végétaux, issus de la mer, de la terre. Et nos agriculteurs sont une pépite extraordinaire pour la Bretagne, bien sûr, mais pour l'Europe tout entière. Et donc, il y a des enjeux importants face à nous. Le changement climatique qui est là, les modèles mondiaux qui bougent beaucoup, la capacité de nos agriculteurs à investir qui est obérée par des problèmes de répartition de valeur dans la filière. Tout cela est d'une complexité redoutable et pourtant, on doit dire et redire à nos agriculteurs que nous avons besoin d'eux, aux jeunes que nous voulons qu'ils s'installent dans l'agriculture et que les colères du moment, nous les entendons, qu'il y a un travail en cours à Bruxelles, à Paris, en Bretagne, pour travailler sur ces sujets de simplification qui ne dépendent pas tous de la région Bretagne que je préside, mais je prends ma part, et puis de faire en sorte que les aides promises arrivent. C'est ça aussi qui génère la colère, c'est que quand un Premier ministre dit « promis le 15 mars, les aides seront là », et que nous sommes le 5 avril et que les aides ne sont pas là, je peux comprendre l'agacement, la colère ou même la peur. Donc nous devons résolument travailler pour montrer à nos agriculteurs qu'ils doivent nous faire confiance et que nous devons être au rendez-vous de cette confiance.
Les agriculteurs sont inquiets aussi. On parle beaucoup de la guerre aux portes de l'Europe. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. Je voulais vous entendre aussi sur ce sujet, Loïc Chenet-Girard, parce que aujourd'hui la guerre qui frappe l'Ukraine a des répercussions forcément en France. Alors, il y a l'aide à l'Ukraine, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi la crainte du monde agricole de voir entrer l'Ukraine très vite dans l'Union européenne et peut-être pas, on va dire, de façon égalitaire par rapport aux pays qui y sont déjà.
Nous avons, depuis de nombreuses dizaines d'années, élargi l'Europe. Et en tant qu'Européen convaincu, je suis pour cet élargissement et je suis pour qu'à terme, l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Ça voudra dire aussi la défaite de M. Poutine. Mais pour arriver à cela, il faut des conditions. Et dans les conditions, il y a ce sujet de la justice, ce sujet de l'équité, la protection de nos agriculteurs. Quand j'étais enfant, nous parlions du risque de voir les Espagnols ou les Portugais rentrer dans l'Union européenne. Lorsque j'étais étudiant, on parlait du risque du plombier polonais. Mmh. Maintenant, on dit « oh là là, il y a l'Ukraine ». Mais je pense que nous sommes capables de l'organiser, notamment parce que nous avons vécu des élargissements et nous savons les erreurs qu'il ne faut pas commettre, et notamment la régulation qui est indispensable. On ne peut pas dire aux agriculteurs bretons de produire au prix d'un agriculteur ukrainien. Une ferme bretonne, c'est 65 hectares en moyenne. Il y a des fermes en Ukraine qui dépassent les 10 000 hectares, les 20 000 hectares.
On est sur de l'industriel, là.
C'est d'autres modèles, mmh. C'est complètement d'autres modèles. Et d'ailleurs, ceux qui veulent démanteler l'agriculture bretonne dite productiviste et industrielle feraient bien de regarder l'agriculture mondiale, l'agriculture de l'Est de l'Europe, qui vient peu à peu remplir nos assiettes à des prix soutenables pour nos concitoyens. Donc tous ces sujets sont éminemment complexes, mais je veux redire que nous avons besoin de nos agriculteurs et besoin que l'Europe les protège. Et moi, je suis un militant de l'Europe, mais un militant de l'Europe qui protège et qui prend compte, qui tient compte des niveaux de vie, des situations. Et la situation bretonne n'est pas la situation ukrainienne, de la même manière que la situation bretonne n'est pas la situation de la Grèce ou de l'Espagne. Nous devons travailler cela avec, encore une fois, beaucoup de courage et d'éviter de simplifier, encore une fois, les discours, c'est très important.
C'est dangereux, le discours simpliste que l'on entend aujourd'hui. On va parler de l'Europe un peu plus largement, Loïc Chenet-Girard. Vous le dites, hein, vous êtes un Européen convaincu. Vous le montrez ici aussi, au niveau de la région Bretagne. On voit souvent le drapeau breton, le drapeau européen, le Guenadu, on va le dire, hein, pour nos auditeurs qui sont éloignés et qui ne connaissent pas forcément le nom de notre drapeau. Est-ce qu'aujourd'hui, une région comme la Bretagne a besoin de plus d'autonomie? Vous voyez déjà où je veux en venir. Vous avez pris la parole il y a quelque temps suite à la parole présidentielle et à la parole de M. Darmanin qui a enclenché un processus en Corse, processus, on va dire, d'autonomie, n'ayons pas peur du mot, et vous avez dit chiche.
Mais oui, parce que nous avons besoin de plus d'autonomie, de liberté d'action dans les territoires, pas que pour la région d'ailleurs, pour les maires, pour les élus locaux, et plus de protection par l'Union européenne. Et les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je suis un fervent défenseur de l'Europe, citoyen européen, mais je suis aussi un fervent défenseur de ma République, qui est notre contrat social commun, et puis, bien entendu, un Breton qui vit sa bretonitude tous les jours. Et c'est comme cela que je pense que notre jeunesse doit penser l'avenir. Une singularité par son territoire, une fierté par son pays certainement, et son pays il est multiple, il est le pays local où l'on vit, la région, la nation, et puis cette Union européenne qui doit nous protéger, notamment face à ces enjeux géopolitiques qui font peur. Et nous avons aujourd'hui conscience, je l'espère, que nous sommes plus forts à 450 millions qu'à 65 millions de Français. Et ça ne marche que si ensuite il y a du pouvoir local, Parce que le pouvoir local, c'est le pouvoir d'agir au quotidien au plus près des gens, pour répondre à leurs attentes sur les sujets d'école, de logement, de santé, pour faire en sorte que l'aménagement du territoire réponde aux attentes de nos concitoyens pour bien vivre. Et on ne peut pas croire que tout sera bien piloté de Paris, que tout sera bien piloté de Bruxelles. Il faut les trois. Et il faut cet équilibre. Et moi, je milite effectivement pour que la République des territoires se mette en œuvre. Parce que la République des territoires, c'est la réponse concrète aux inégalités constatées dans une République une et indivisible.
Et l'ouverture des territoires aussi, on le voit aujourd'hui, il y a des craintes justement que demain on ait une Europe fédérale, des régions, on entend beaucoup cette crainte-là de la part des Bretons hein, aussi. Il y a aussi des craintes face à l'immigration, on sait que la Bretagne est une terre d'accueil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions, on a une France très fracturée autour de ce sujet de l'immigration. Aujourd'hui, la Bretagne, je le disais, est terre d'accueil. Comment faire en sorte qu'on puisse accueillir ceux qui vont venir? Parce qu'on a le climat qui change, on aura des réfugiés climatiques également. Comment faire en sorte que la Bretagne puisse accueillir, j'allais dire, tout ce monde?
D'abord, il faut que les Bretons et les Bretons puissent se loger. C'est important.
Alors, on va
il
en parler
y a des
du
vrais
logement,
enjeux de logement. Et pourquoi j'en parle là? C'est parce que ceux qui manipulent les peurs et trouvent dans l'étranger, dans l'autre, dans le migrant, un bouc émissaire pour dire combien les malheurs sont à cause de ces gens-là, se trompent de cible. Mais ils se nourrissent de situations de peur et d'instabilité que nous vivons sur nos territoires. Donc nous devons continuer à travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que, encore une fois, celles et ceux qui veulent vivre au pays puissent trouver des logements pour y vivre, des emplois dans les territoires, une qualité de vie avec les écoles, la santé et tout ce qui va avec à la hauteur de nos ambitions. Et puis dire, affirmer que l'Union européenne, c'est aussi 450 millions d'Européens qui peuvent circuler librement. C'est une chance extraordinaire. C'est un droit, une liberté qu'il faut défendre, qu'il faut chérir, parce que nos jeunes, ils sont fiers et heureux de pouvoir circuler dans cette Union européenne. Ça, c'est déjà très important, et ne jamais considérer l'autre dans l'Union européenne comme indissemblable. C'est un citoyen européen comme nous. Et ensuite, il y a celles et ceux qui viennent de ailleurs, en dehors de l'Union européenne, et qui cherchent à entrer dans l'Union européenne, soit parce que réfugiés climatiques, soit parce que réfugiés politiques, soit parce que réfugiés économiques. Et nous devons regarder comment nous acceptons une part de ces hommes et de ces femmes et comment nous les intégrons dans l'Union européenne. Et c'est un sujet ô combien important parce que le faire est une richesse pour demain, pour nos territoires, mais c'est aussi un sujet à traiter correctement pour ne pas accentuer des peurs, accentuer des tensions. Il faut que l'école républicaine joue son rôle, mais qu'elle soit protégée, cette école républicaine. Que les droits de la République s'appliquent pour tous, y compris pour ceux qui aspirent à venir vivre sur notre territoire. Et y compris, j'ose le dire, lorsque les règles ne le permettent pas et qu'il faut que la personne retourne dans son pays, ce qui est le droit qui a été voté par la représentation nationale. C'est comme cela qu'on pourra agir. Et pas en disant, il y a les gentils européens et les méchants étrangers, ou il y a les gentils français et les méchants étrangers, ou pire, il y a les gentils bretons et les méchants d'ailleurs.
Alors, en Bretagne, on n'est pas une terre de vote du Rassemblement national.
Méfiance.
Voilà. Alors, justement, on voit néanmoins les chiffres qui augmentent d'année en année. On voit aussi les sondages. Alors, qu'il reste des sondages, des promesses de vote pour M. Bardella pour cette élection européenne du 9 juin. On les donne entre 28 et 31%. Là encore, j'insiste bien, ce sont des sondages. Est-ce que c'est de nature à inquiéter le président de région que vous êtes, Loïc Chesnais-Girard?
Pas à inquiéter, mais à m'alerter. Il faut que l'on fasse tous collectivement attention aux choix que nous faisons. La Bretagne a besoin de l'Union européenne. La Bretagne a besoin de faire en sorte que la pêche soit considérée en Europe, et c'est une des politiques européennes que de piloter la pêche. La Bretagne a besoin de l'Union européenne sur l'agriculture, sur l'aménagement de nos trains, de nos transports en commun, de la fibre optique. Et celles et ceux qui s'opposent à l'Union, les extrêmes qui s'opposent à l'Union, jouent un jeu dangereux par rapport à nos populations. Quand on dit qu'on est pour le Brexit et qu'on espère qu'ensuite viendra le tour de la France, on se moque de celles et ceux qui, en France, ont besoin de l'Union européenne, et notamment les pêcheurs et les agriculteurs. Lorsque on vote la PAC à Bruxelles et qu'ensuite on dénonce la PAC ici dans nos territoires, on peut se dire qu'il y a des incohérences dans les discours. Moi, je le redis, nous avons besoin d'une Europe, mais une Europe qui prend en compte les besoins des territoires, qui prend en compte les besoins des régions, qui entend, encore une fois, que les modèles sont en train d'évoluer et qu'il faut accompagner nos concitoyens, et qui toujours, toujours cherche l'union, par, encore une fois, ce sentiment d'appartenance à une Union européenne qui assume cette diversité des territoires, comme j'appelle la diversité des territoires dans la République.
Alors, la diversité des territoires, elle s'opère aussi quand les territoires ont des moyens. On entend très souvent des voix ici au Conseil régional de Bretagne, je ne donnerai pas de nom volontairement, mais qui disent, voilà, la région Bretagne, elle n'a pas assez de moyens, l'État ne nous aide pas assez, ne nous fait pas assez confiance. Ça nous ramène un petit peu à l'autonomie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit prendre sa responsabilité pour donner un peu plus aux régions, en tout cas faire confiance aux régions et leur donner les moyens de cette confiance?
Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de débat entre communes, départements et régions. Et ceux qui s'amusent à essayer de créer une tension, un débat entre communes, départements et régions se trompent de débat. Le sujet, c'est que doit faire l'État et que doivent faire les collectivités locales, tout ensemble. Et aujourd'hui, en France, les citoyens ne le savent pas forcément, mais sur 100 euros dépensés, il n'y a que 17 euros qui viennent des collectivités locales. Des collectivités locales. Si je prenais la région, on doit être aux alentours de 5 euros, 5% du budget. Bon, bah, le sujet, encore une fois, ce n'est pas forcément plus d'argent, ce n'est pas forcément plus d'impôts qu'on demanderait à tout le monde, mais c'est peut-être que certaines actions pilotées par l'État soient transmises aux collectivités locales. Soient transmises aux collectivités locales parce qu'elles sont capables d'agir et de mieux choisir, de mieux calibrer l'argent public qui est posé dans les territoires.
De moins gaspiller, on peut lâcher le mot.
Moi, je pense qu'on est plus efficace, que nous sommes plus efficaces et que, encore une fois, l'argent géré en local par un maire, par un président de département sur les EHPAD ou par un président de région sur des sujets d'accompagnement des entreprises est plus pertinent qu'une décision dans un bureau parisien avec des grilles statistiques. Et on sait tous qu'il y a toujours des trous dans les grilles statistiques. Et moi, je déteste être un trou d'une grille statistique. Je suis la Bretagne. Et donc, j'ai besoin de plus de moyens pour agir. Mais je le redis, pas plus de moyens pris dans la poche des Bretons et Bretons ou des Françaises et des Français. Plus de moyens avec une réallocation des moyens entre l'État et les collectivités.
Alors, on voit l'État aujourd'hui qui est en grande souffrance au niveau de son budget. 5,5%
de déficit,
hein, au niveau du PIB. L'État cherche à faire des économies. On a beaucoup entendu parler du social cet an dernier, et ça concerne les collectivités locales, alors peut-être un peu plus les départements si on parle de RSA. Est-ce que c'est une mauvaise idée pour vous d'aller peut-être un peu taper sur ceux qui ont le moins, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont dans la précarité?
Mais encore une fois, quel est le projet de société que nous voulons? C'est quoi le projet de la France de 2030, de 2040? C'est chacun pour soi? C'est les meilleurs s'en sortiront et les autres se débrouillent? Je ne crois pas que ce soit un projet pour un pays. Nous avons besoin d'emmener tout le monde, d'emmener tout le monde vers le travail, parce que le travail, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la fierté de pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et ça demande un travail considérable que d'aller chercher celles et ceux qui sont éloignés du travail pour les emmener dans le travail. Je ne crois pas qu'en Bretagne, nous ayons beaucoup de gens sur le bord du chemin qui se disent le matin, bah, chouette, je reste comme ça et vive les allocs. Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, il y a des freins, quelquefois des freins psychologiques, quelquefois des freins de santé, quelquefois des freins de mobilité ou de logement pour pouvoir emmener vers le travail. Nous avons beaucoup encore à faire sur la formation. Nous avons encore beaucoup à faire sur l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Mais ce n'est pas en précarisant les gens qu'on va les forcer à prendre des métiers, à apprendre un travail de manière forcée. Et nous devons donc faire attention aux messages que l'on utilise. Et puis ensuite, redire que celles et ceux qui travaillent actuellement sont la force vive de la nation et qu'ils ne doivent pas céder à cette envie de dire qu'il y aurait les bons Français qui travaillent et les mauvais Français qui seraient au chômage. Je trouve ça d'une violence sociale considérable. Nous avons dans ce pays des luttes à mener pour les conditions de vie au travail, pour vivre bien quand on travaille. Et c'est certainement un combat qu'il faut reprendre, notamment quand on est social-démocrate comme moi. Mais nous avons aussi à nous occuper de celles et ceux qui sont éloignés du travail pour différentes raisons. Et ne pas simplifier, encore une fois, les discours. Il y aura toujours des gens qui trichent. Mais il y a aussi des gens qui trichent, y compris chez les riches.
Voilà. Vous dites, Loïc Chesnais-Girard, je suis social-démocrate. Je crois savoir que pour les élections européennes, vous soutenez la liste de Raphaël Glucksmann avec cette envie d'Europe sociale. Là, on revient à l'Europe. Il faut la construire vite, cette Europe sociale. On en a besoin. Elle doit être très vite mise sur les rails.
D'abord, il faut réaffirmer l'envie d'autonomie, de souveraineté de cette Union européenne par la production. Production de l'énergie, production des médicaments, production de nos voitures, production de tout ce qui nous permet de vivre au quotidien sans dépendre de pays qui peut-être un jour nous diront c'est terminé. On a manqué à un moment donné de doliprane infantile. Parce que les pays qui nous livraient nous ont dit priorité à nos habitants. Et je les comprends. Si demain on manque d'aliments, si demain on manque d'éléments pour fabriquer nos téléphones ou nos voitures, nous vivrons des moments compliqués. Et je crois que Raphaël Glucksmann a raison de dire que l'usine, c'est la liberté. L'usine, c'est la liberté. Il faut affirmer cela et redire la fierté que nous avons en Bretagne de participer à la souveraineté par nos usines. Et ensuite, vous avez raison, il y a le sujet du social. Comment faire en sorte de bien vivre de notre travail? Comment faire en sorte de faire en sorte que nos citoyens soient fiers et confiants dans l'avenir? Et ça, c'est un combat qu'on doit mener dans le territoire local où nous sommes, en Bretagne, avec celles et ceux qui vivent à nos côtés, mais aussi effectivement à l'échelle de l'Union européenne. Les combats qui sont menés sur les métiers des livreurs, les métiers d'hyper-précarité que nous connaissons aujourd'hui dans les nouveaux modèles économiques doivent être traités à l'échelle de l'Union européenne. Parce que si on les traite que à l'échelle de la France, alors on aura des fuites, entre guillemets, par la liberté de mouvement, la liberté des capitaux qui existent en Union européenne.
Alors il nous reste 7 minutes, ça va très vite, hein, Loïc Chesnais-Gérard. J'aurais voulu vous entendre sur l'énergie. Vous en avez dit un tout petit mot à l'instant. La Bretagne s'est très vite investie dans l'énergie, dans le développement durable et l'énergie durable également, oui, avec les éoliennes en particulier. De nouveaux parcs voient le jour. C'est une des solutions pour garantir notre autonomie énergétique.
C'est une des solutions, mais vous avez raison de dire une des solutions. La première des solutions, d'abord, c'est d'économiser notre énergie, de consommer le moins possible, de faire gaffe les uns les autres, sans mettre la pression à nos concitoyens. Là aussi, je trouve très très violent socialement de montrer du doigt celui ou celle qui part avec sa voiture diesel au travail, ou celui ou celle qui est obligé de mettre un chauffage électrique chez lui avec un bâtiment mal isolé. Donc d'abord se dire, on est un pays qui a une histoire, qui a une géographie, et on doit vivre tous ensemble, trouver des solutions adaptées à chacun. Et ensuite, produire de l'énergie partout où c'est possible. Des panneaux solaires, vous avez vu en arrivant ici à la région que nous avons mis des panneaux solaires partout pour produire 30% de notre énergie, et on devra faire plus demain. Des éoliennes quand c'est possible, avec tous les débats qu'il y a avec nos concitoyens, et je les respecte, il faut que ces éoliennes soient acceptables et posées dans les territoires où c'est faisable. Et puis l'éolien en mer, parce que cet éolien en mer, qui est loin des côtes, et de plus en plus loin des côtes dans les années qui viennent, c'est notre souveraineté, c'est notre liberté. Ces électrons-là, c'est les électrons de la liberté, c'est les électrons de la démocratie. Et ceux qui ne veulent pas de ça, eh ben quelque part, acceptent le gaz russe, acceptent le pétrole qui vient de pays qui ne sont pas forcément démocratiques. Et c'est ça le sujet que nous devons avoir face à nous. Quand on s'est battu dans les années 40-50 pour reconstruire la France, on ne s'est pas posé immédiatement la question de l'esthétique. On s'est d'abord posé la question de comment on amène l'eau courante et l'électricité à nos concitoyens. Et on était bien heureux de voir les poteaux arriver dans nos campagnes. Et ben aujourd'hui, on fait venir la fibre, on fait venir de l'énergie avec des éoliennes en mer. Oui, ça pose des questions, notre paysage change, ça peut être moche pour certains, ça peut être inquiétant pour d'autres, mais c'est notre liberté. Et moi, je suis un combattant de la liberté.
Alors notre liberté, elle passe aussi par notre sécurité. Il y a quelques jours, vous avez signé, Loïc Chesnais-Gérard, un accord avec Sébastien Lecornu autour de nos armées et autour de notre défense. Elle est importante aujourd'hui parce que la guerre, elle n'est pas forcément avec des bombes ou avec des chars, c'est aussi la cyberguerre, c'est bien aussi l'IA demain qui va arriver et tout ce qui fait qu'on aura demain des ordinateurs quantiques qui vont avoir des puissances de calcul assez importantes. Est-ce que c'est un autre enjeu pour la Bretagne d'être à la tête, ou en tout cas d'être dans le mouvement de ces nouvelles technologies et aussi de ces technologies de sécurité?
Depuis des centaines d'années, la Bretagne, elle est à la pointe des technologies militaires. Depuis la grande marine à voile jusqu'aujourd'hui, nos sous-marins nucléaires. Et c'est en Bretagne que ça se passe. Et moi, j'en suis à titre personnel très fier. Et très fier des marins qui nous protègent. Très fier des marins bretons qui servent sous pavillon France pour que notre pays soit libre. Et nous devons avoir conscience de l'économie qui va avec. C'est triste, effectivement, de se dire que nous avons besoin, en 2024, de continuer à travailler une industrie de défense. Mais c'est aussi le monde tel qu'il est. Et si on ne se préoccupe pas de cela, alors un jour, nous aurons des moments compliqués à vivre. Nous n'avons vécu que 70 ans de paix. C'est rien sur les 3000 années qui viennent de passer.
C'est fragile, la paix.
C'est très fragile, la paix. Et donc, nous devons protéger nos concitoyens. L'armée doit assumer ses responsabilités avec les budgets que la représentation nationale vote. Et la Bretagne, à sa place, elle participe en accompagnant les entreprises qui développent l'effort de guerre aujourd'hui pour l'Ukraine, mais aussi les outils de défense pour notre pays, depuis la cyber jusqu'aux outils plus conventionnels, jusqu'à l'arme suprême qui est à l'île longue à Brest.
Justement, cette guerre à nos portes, cette guerre cybernétique, on pourrait le dire, sur la toile et ailleurs, elle touche, on a vu plusieurs sites du gouvernement cet an dernier mis en difficulté par des hackers. Est-ce que ici, sans dévoiler de secret évidemment, la région Bretagne s'est préparée aussi à être prudente sur ses installations, sur ses infrastructures, pour éviter que demain, il y ait une paralysie ?
Nous vivons des attaques, comme tous les organismes publics en France, comme les hôpitaux, comme les villes. Et nous nous préparons le mieux possible. Nous travaillons avec nos ingénieurs, nos techniciens, mais aussi les services de l'État pour protéger les services de la région, pour faire en sorte que, tout simplement, vos données, quand vous payez la cantine, ne passent pas sur les réseaux, pour faire en sorte que, lorsque vous vous abonnez au train, on ne sache pas où vous habitez sur tel ou tel réseau, et pour faire en sorte que le service public que nous vous devons soit un service public sûr. Et nous devons aussi accompagner les entreprises et les services publics associatifs comme par exemple Bretagne 5. Et c'est la raison pour laquelle la Bretagne, en lien avec l'État, a monté une sorte de SAMU cyber. Ce SAMU cyber, il est fonctionnel depuis le 1er janvier dernier pour accompagner les entreprises, les mairies qui pourraient être attaquées pour savoir quoi faire en premier, comme un SAMU. Et après, on passe la main à d'autres spécialistes. Ça, c'est très important dans la société d'aujourd'hui parce que vous avez raison, la France est une cible. La France est une cible parce que terre de liberté. Et parce que ceux qui combattent la liberté, ceux qui veulent l'obscurantisme, s'attaquent au premier symbole des démocraties modernes, et la France en fait partie.
Un tout dernier mot, il nous reste deux minutes, je regarde notre réalisateur. Aujourd'hui, on a une Bretagne qui est très jeune. On a, comme dans toutes les régions, une population qui vieillit un peu, mais les jeunes viennent en Bretagne, on attire beaucoup, et c'est tant mieux. Est-ce que là aussi, il va falloir développer les infrastructures, l'accueil pour les jeunes, et peut-être aussi des pôles de recherche, on en parle beaucoup, pour demain, pour l'avenir ?
Moi, je crois à deux choses. D'abord, à la capacité de développer la formation partout en Bretagne. Quand on habite à Saint-Brieuc, on peut faire ses études de première année de médecine à Saint-Brieuc. Et ça marche très bien. Et ça fait d'aussi bons médecins que les médecins qui font toutes leurs années à Rennes. On peut être à Pontivy et faire des études supérieures. Et partout en Bretagne, on doit développer cela. Ce qui n'empêche pas la mobilité. Ce qui n'empêche pas qu'après la licence, ou après, pour la première année de master, on doive bouger pour aller à Brest, sur l'océan, pour aller à Rennes, sur le cyber, pour aller ailleurs en France ou en Europe, avec notamment les programmes Erasmus. Il faut que notre jeunesse continue de bouger. Mais il faut que les premières années, quand on a encore besoin de la sécurité de la famille, on puisse rester près de chez soi. Ça, c'est important. Et travailler le logement partout en Bretagne et notamment sur nos côtes. Ça, c'est un des sujets avec les maires, avec l'État, que nous devons travailler dans les années qui viennent.
Voilà, il y a déjà une grande réflexion hein, au niveau de la région, hein, si je ne m'abuse, autour du logement.
Fanny Chappé en est le fer de lance pour la région Bretagne.
Voilà, j'allais prononcer son nom, Costard Morican, maire de Paimpol. Voilà, je le précise. Merci infiniment, Loïc Chenet-Girard, de nous avoir reçus ici au Conseil régional de Bretagne. Et je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée à vous et à tous les auditeurs.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.